Bienvenue tout le monde sur la POC édition du 8 décembre 2021. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, il y a du monde en place. Il y a l'âme de Jean-Philippe Vandal qui est là, qui est tout habillé, tout chic avec un beau t-shirt. Salut Vandal!
Incroyable! Renversant! Superbe!
Explique-nous un petit peu ça.
Francis, il est même autographié, c'est là, regarde ça. Carl Carmoni, Serge Vlemingue s'autographier.
Ça, c'est une pièce de collection. Il y a des jaloux oui, dans la place. Nicolas Desrosiers est aussi là. Salut Nick.
Salut, bonjour, bonsoir.
Et Sylvain Rioux. Salut Sylvain.
Salut, salut.
Aujourd'hui...
Hey, c'est rendu... Ah, je l'ai pas coupé, c'est rendu que Vandal, il se fait couper comme Eduardo.
Ouais, ouais, parce qu'il crie trop.
Ouais, exact.
Le noise gate de Zoom. Il coupe. Ouais.
Zoom, il...
Non, il aime pas ça, les gens qui ont de l'émotion.
Non, ça, c'est trop obnoxious.
Il aime pas Carl Carmoni.
Ouais, c'est ça.
On va le prendre de même. OK, sur le show aujourd'hui, ben, c'est la première fois, c'est un spécial hein, qu'on commence à faire pour nos patrons qui sont à 5$ par mois et plus, de pouvoir assister à l'enregistrement en étant backstage. Donc, faut être patron, je pense que c'est Nick Suzuki, le niveau nécessaire, le nom du perk. Donc, minimalement, être un Nick Suzuki pour pouvoir être sur le show avec nous autres, être sur le Zoom et venir voir l'enregistrement backstage, pouvoir participer aussi via clavardage. On a Francis Benoît qui est avec nous de Memorable Authentic qui est là. Salut Francis!
Salut tout le monde!
Yes, backstage. Comment tu te sens? Un peu privilégié?
Ouais, ben là, il n'est plus backstage, il est full on stage.
Il est là.
Je fais quasiment la partie de l'équipe, là, honnêtement.
Presque.
Je me sens en première ligne avec...
Paye tes 12, comme on dit à la lutte.
Et comme Samuel Montembeau qui a les meilleurs tickets pour un match de hockey.
C'est
ça. Ah, mais ça, c'est pas super fin, là.
Non, c'est ça. En espérant qu'on soit plus... de la bonne marchandise que le Canadien cette année. Ouais, tant qu'à avoir les meilleurs billets, au moins que ce soit des bons billets.
Au moins, t'es aussi bon que les Lions de Trois-Rivières.
Ouais, ils ont une bonne saison. Pareil, eux autres, ça roule bien. Je sais pas, je suis pas au courant.
Ils sont sur une bonne streak. Je pense qu'il y a une couple de victoires en ligne dans les 10 derniers matchs.
OK, on sent Chris. Merci. Donc, si vous voulez être backstage avec nous autres sur le show, il faut devenir patron et avoir le perks de Nick Suzuki ou plus. Donc, c'est 5$ par mois pour pouvoir être backstage. C'est une première qu'on fait sur le show pour ça. Il y avait aussi un gros concours qu'on a réalisé, la photo de Raymond Bourque autographiée en plus du Winner's Choice, le chandail de Jean-Philippe Vandal qui l'a offert, mais d'Alexandre Daigle, signé par Daigle, ou encore l'autre photo, c'était une photo autographiée de Carey Price. Le gagnant, on vous annonce ça, c'était dévoilé dans un live sur Facebook, mais quand même, pour les gens qui ne l'ont pas vu passer, le gagnant, c'est Martin Côté, qui a remporté tout ça. Ben, en fait, tout ça. Il a remporté le chandail de Daigle et la photo de Raymond Bourque signée. C'était son choix là, d'avoir le jersey. C'est en plus Jean-Philippe Vandal qui a fait de la livraison. Ça, c'est magique.
Ça vaut plus cher, c'est le plus gros prix.
Ben,
là,
je
c'est
comprends.
Pas le jersey, puis le... C'est
wow,
vraiment que je moi, je suis allé
en plus. Wow.
Oh oui, en main propre.
Ouais, ouais. Il est monté à Ottawa. On s'est croisés. Je suis allé porter la photo. Puis on était les deux à la game contre les Sénateurs, contre l'Avalanche. Moi avec les pauvres. Puis Vandal qui se dort à Quinn dans les hauteurs du centre Canadian Tire. Donc, dans une loge. Merci, bonsoir. C'était la grosse vie sale. J'y voyais de loin. Puis je pleurais un peu. Mais
tu peux dire la vérité en plus, là, qu'on s'est vu au Pigalle après, mais ça.
Hey! Garde ça entre les boîtes à balles.
Ok, je m'excuse.
Mais non, c'est correct. Des insights de même. Ok, on a un autre concours. Gracieuseté de Memorable Authentic. Je peux-tu le dire à la française ou c'est en anglaise, Francis? Je ne le sais jamais.
Ah, Memorable Authentic, ça se dit super bien. Okay. C'est quand on a fait notre branding, on voulait un peu ça, on voulait autant un mot qui se disait bien en français qu'en anglais. Fait que memorable puis mémorable.
OK, mémorable, authentique. Francis qui nous a offert une magnifique rondelle de Nathan MacKinnon signée. C'est pas magique ça, c'est-tu pas beau?
Hey, pour vrai, là, c'est un prix de mon gars.
On mérite pas ça, mais on va le prendre.
Quand je l'ai dit à mon gars, genre, il était vraiment fou.
Il était fâché. Hey!
Mon gars était vraiment fâché. Comme moi, je la veux, ça. Ouais, mais non.
C'est ça la gueule.
Ton père qui s'abonne à Patreon, là.
Puis... ouais. Ton cassé de père qui ne trouve ouais. pas aux s'abonner.
Donc, la façon qu'on va procéder pour le concours pour remporter cette rondelle-là de McKinnon autographié, ça va être la même façon que pour le concours précédent. Si vous êtes membre Patreon, vous êtes dès maintenant éligible. Vous avez un ticket pour pouvoir être dans le tirage. Et si vous devenez patron, il faut le faire avant le 1er janvier 2022. Ça, là, on parle de 11h59 le 1er janvier. Si t'es pas patron, t'es pas dans le tirage. Nous, on va faire le tirage le 2 janvier. Moi, je vais être dans les lointaines contrées de Hearst avec de l'Internet de Hearst. Fait que je suis pas sûr si on va être capable de faire un live Facebook qui va bien sonner, mais on va faire de quoi là pour pouvoir vous faire un tirage en bonne et due forme qui est legit. On va avoir des témoins, tout ça. On va organiser de quoi, mais ça se fait le 2 janvier. Fait que surveillez ça. Pour les patrons, je pense que c'est une excellente raison de devenir l'un de nos patrons là, pour avoir accès à ce tirage-là. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est
non,
très,
non,
très
puis
cool.
On remercie vraiment Francis ben qui oui. était avec nous autres. Là, c'est, nous autres, on n'y a rien demandé. Il vous a offert ça totalement gracieusement du fond de son cœur. Puis c'est pour vrai, c'est un item de collection de fou. Là.
Vraiment.
Ah, c'est vraiment.
C'est génial. OK, assez de plugs pour ce début de show-là. Commençons à parler de l'actualité. Comme je le fais tout le temps, à chaque semaine, quand on commence un show, ben, je vous donne un peu la fiche canadienne, où est-ce qu'on en est rendu. Une fiche de 6, 18 et 3. Ce qui est drôle, puis pas en même temps pour le Canadien, c'est que depuis le dernier enregistrement, ils n'ont pas signé de victoire. Fait que j'ai pas
ouais, c'est ça, le nombre de victoires augmente pas.
Ça, j'ai pas obligé. Dans les trois chiffres que je viens de nommer, celui-là, je l'ai pas changé. Fait que c'est resté pareil. Le Canadien est donc 31e au classement général avec une moyenne de victoire là, de 2,78. Ça veut dire qu'il gagne un petit peu plus qu'un match sur 4.
Amen.
C'est
positif quand tu regardes ça de même. C'est
ben ouais, ben ouais.
Ça s'améliore. Il y a juste place à l'amélioration.
Ça pourrait être 1 sur 5, tu sais.
Ben ouais.
Écoute. Pour vrai, là.
Ouais. C'est... J'ai le goût de vous demander, là, votre. Ben, pas de l'appréciation, là, mais comment est-ce que. Tu sais, là, le fait que le Canadien est déjà éliminé, c'est virtuellement, là, c'est pas mathématique encore, là, mais virtuellement éliminé, ça a quoi comme impact sur. Votre intérêt à suivre les matchs, à aller écouter les matchs. Est-ce que vous avez changé votre perspective? Est-ce que vous écoutez encore le hockey du Canadien de la même façon? Nick?
Moi, premièrement, je veux que tu te rétractes.
Oui.
Parce que Marc nous l'a dit souvent.
Excusez.
À Noël, les Blues étaient derniers au
oui.
classement. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Donc, techniquement, tout est possible.
Je sais. Je sais, okay? Je sais.
Donc, rétracte-toi.
Dès maintenant, je me rétacte, je m'excuse.
Tant qu'on n'arrive pas au trade deadline, on ne peut pas se prononcer encore.
Hey, je ne sais pas pourquoi, Sylvain, mais quand tu parlais, j'entendais juste la toune « Don't stop believing » en arrière. Il faudrait faire un montage, puis on met ça en arrière quand tu parles.
Ouais, hey, j'allais faire une joke tellement pas correcte, mais là, je viens de voir la belle face à Francis, puis je me dis « Je peux pas faire ça quand il est là. »
Francis, ferme ta caméra, s'il te plaît.
Il le fait en plus. Non, mais tu sais, je m'en allais dire, ben oui, mais c'est normal que tu l'entends. Il y a Jacques Demers qui bave à côté de moi là, avec ça, qui joue dans son iPhone.
Dans son iPhone.
Francis, tu peux revenir. Ouais.
C'est clair que c'est ça. Vieux,
dans son vieux Walkman Sony jaune.
C'est ce que je partais pour dire, Vandal. C'est ça le pays. Ah, on est connectés, toi puis moi.
Hey, ça, c'est une mauvaise nouvelle.
Ouais, non, je sais, je sais. Donc, ceci étant, je relance la question. Ça ressemble à quoi votre. Comment vous regardez le hockey maintenant, là? À cette heure que c'est, entre guillemets, virtuellement en fait, là, que le Canadien ne fera pas les séries. Là. Je sais, Sylvain. Je sais. Apprends-moi pas une deuxième fois. Nick?
Ben, moi, ce que j'aime avec la situation d'aujourd'hui, que tous les vétérans sont tous blessés un après l'autre, puis qu'on a, je ne sais pas trop combien, en dessous du cap du minimum du plancher salarial. Mais ce que je trouve le fun, c'est qu'on voit un peu plus les jeunes jouer. Tu sais, Payling, il y a plus de temps de jeu. Caulfield, il était à 4 juste avant que certains gars se blessent, là, mais tu sais, tranquillement, il y a un peu plus de jeu. On voit surtout Romanov prendre des grosses minutes. Autant sur le power play que sur le piqué. Fait que, tu sais, on voit, je dirais, un peu le développement des jeunes. Puis je trouve que c'est quand même prometteur d'une certaine façon. Tu sais, je pense qu'en ce moment, c'est eux autres qui tirent le club plus que d'autres choses, même si on n'a pas de victoire. Je pense que, en tout cas, depuis au moins 4 matchs, le club montre quand même certains jeux qui sont intéressants. Là, tu sais, Peeling, on le voit souvent que Crash le net qui faisait pas avant. Il y a des jeux qui se complètent pas. C'est sûr, on manque un peu de finishing, mais les matchs restent quand même plus excitants qu'au début de la saison quand on avait Gallagher, Anderson, Toffoli et compagnie qui étaient dans le line-up. Fait que pour ça, je trouve que le Canadien reste quand même je dirais entre guillemets compétitif malgré le fait qu'on a un club de Ligue américaine. Là. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Ça permet de voir un peu plus les jeunes puis voir leur progression.
Toi, Vandal?
Moi, j'écoute jamais le Canadien d'habitude, mais là, j'adore regarder le Canadien perdre. Fait que là, j'écoute
Il y a
les
plein games. De bons clubs qui
je suis
gagnent.
Heureux, man. Là, c'est fou. Non, non, je l'écoute pas tant que ça. Je l'écoute pas tant que ça, là, mais c'est toujours plus facile d'écouter quand ils perdent. Fait que. Je suis bien heureux ces temps-ci. Là. Mais ils en font quasiment pitié. Là. Surtout avec la dernière game contre Tampa Bay. Là, j'avais mon voisin qui m'écœurait. On va gagner la coupe. Là, c'est reparti. Là.
Ah, yeah, right. Évidemment.
Et comme là, on est reparti. Check bien ça. Puis,
on
n'est
pas éliminé encore.
La dernière minute, ils se font enculer. Ils se font scorer 2 buts. T'es comme, asti, c'est tough être un fan du Canadien. Fait que, moi, j'aime ça.
Sylvain.
Mais tu sais, honnêtement, le match d'hier. C'était un bon match, là. Si tu oublies le dernier 2 minutes 9 secondes, genre, là, pour vrai, là, le Canadien était dedans, les gars se défonçaient. C'est probablement la meilleure performance qu'on a vue de l'année, justement. Là. Il n'y avait pas de boudeuse sur la glace. Puis je trouve ça le fun, un peu comme Nick l'a dit, là, des gars comme Belzile qui n'a jamais vraiment eu de chance. Dauphin, dont c'était les premiers matchs. Tu as plusieurs gars comme ça qui n'auraient jamais percer cet alignement-là, malheureusement, ben, tu sais, ils vont avoir la chance de jouer quelques matchs au Centre Bell, tu sais, devant leur famille, puis tout le kit, tu sais, là, vous allez me dire que je fouille loin pour trouver du positif, mais tu sais, il faut t'en trouver où est-ce qu'il y en a du positif, puis tu sais, dans le fond, si le Canadien perd le restant de l'année, mais qu'il joue comme hier, il n'y a pas grand monde qui va être fâché.
Non,
parce que oui, hier, c'était toute une bad luck, mais tu joues contre les champions back-to-back. Là, okay? Faut jamais l'oublier. Ils ont eu des grosses pertes, mais ils sont full load encore. Fait que, que tu as tenu tête à ces gars-là jusqu'à 2 minutes de la fin, chapeau. Il y a probablement que la défaite d'hier fait très mal, mais c'est une des premières de l'année qui n'ont pas à rougir de leur défaite.
Mais au contraire, moi, je pense que c'est s'il y a une défaite que c'était correct, tu sais, que tu sors de là même grandi ou que tu peux bâtir dessus, moi, c'est celle-là. Il y a beaucoup de points positifs dans cette défaite-là. Tu dis, hey, il y a tellement de talent de l'autre bord. C'est sûr que là, c'est intangible. Là, on ne peut pas vraiment le calculer, mais tu dis, le Lightning ont pris ça à légère, là. Puis tout le long, ils se disaient, bah, écoute, on est capable de revenir, on va gagner cela, il n'y a pas assez de talent de l'autre bord. À un moment donné, on va faire un petit jeu. Puis... Mais ça venait pas. Puis là, quand il restait 2 minutes, c'est comme, Chris, on est en train de la perdre, cela, finalement. Puis là, ben, la machine a rembarqué, puis merci, bonsoir. Là. Le rouleau compresseur est revenu ses tracks, puis ça n'a pas été long. Là.
Ouais, mais tu sais, mettons, le système de jeu du Canadien a. Je sais pas si c'est le fait qu'avant, on avait des vétérans puis un peu plus dans le line-up puis qui faisaient à leur tête que là, aujourd'hui, on a plus des jeunes. Puis tu sais, l'ajout d'un Dauphin en plus dans le line-up qui a quand même joué des grosses minutes. Tu sais, je sais pas si là, on a comme compris la façon de jouer puis on a bloqué la zone neutre tout le match à part, je dirais, comme les 5 dernières minutes de la 3e période. Fait que ça a fait que la relance des jeux de Tampa Bay C'est pas mal tué souvent avant même qu'ils se rendent dans leur zone. Fait que tu voyais que le plan de match était bien exécuté. Puis je pense qu'on a joué vraiment au maximum des capacités de son effectif. Là. Le Canadien a profité de deux chances sur Vasilevski. Puis on n'a pas eu des tonnes non plus des chances de marquer. Fait que je pense qu'on a été vraiment opportuniste. Mais en général, comme vous dites, là, Tampa Bay n'avait pas pointe, n'avait pas Kucherov dans son line-up, mais ça reste que c'est une force cette équipe-là. Là, fait que peu importe, c'est une bonne victoire. Puis au final, étant un fan du Canadien, moi je suis content qu'on n'ait pas eu les deux points, qu'on n'ait pas eu un point, mais qu'en plus qu'on est parti, qu'on a zéro point, c'est parfait. On fait juste améliorer nos chances pour le draft de fin de la saison.
Oui, c'est ça. Faut le voir que chaque victoire est. C'est pas du bon bord. Là.
Chaque défaite est une victoire.
Ouais. Tu parlais, tantôt que Nick, les joueurs ont comme exécuté le plan de match, que ça y avait de l'implication puis tout ça. Puis étrangement, c'est avec des jeunes que là ça fonctionne bien sous la gouverne de Ducharme. Ben, je dis étrangement, mais je suis pas si étonné que ça. C'est un gars qui a toujours bien fait fonctionner les jeunes. L'an passé en saison régulière, c'était pas fameux. Il a fallu que qu'on arrive en série puis qu'il y ait vraiment un enjeu important, que là la machine c'est vraiment enclenché chez les vétérans. Mais du charme, si le Canadien il va dans une reconstruction, moi je suis prêt à le garder là. Ça a toujours bien fonctionné avec les jeunes, puis on le voit encore quand il y a des jeunes là, ça fonctionne bien. Est-ce qu'on le change? Est-ce qu'on met un autre coach ou on lui donne sa chance même l'année prochaine?
Ben, ça serait particulièrement malhonnête de te débarrasser de Dominique Ducharme à la fin de cette saison-là. Posez-vous la question, est-ce que tu donnes le Canadien à John Cooper demain? Est-ce qu'il fait mieux? Tu le donnes à n'importe qui d'autre? Est-ce que l'équipe fait mieux? Je pense pas. Les gens qui pensent que c'est de la faute à Dominique Ducharme, écoute, regarde la liste de blessés qu'il y a. Il y en a un qui revient, il y en a deux qui partent. À un moment donné, puis tu sais, c'est le même coach qui les a traînés en finale, mais c'est pas les mêmes joueurs, tu sais. Puis concernant qu'est-ce que tu disais justement, que tu sais que les joueurs, mais c'est parce que ces jeunes-là, justement, là, ceux que j'ai nommés un petit peu plus tôt, c'est une chance inespérée pour eux autres. Là. C'est quand la dernière fois que tu te rappelles d'avoir vu autant de gars se pitcher à terre pour bloquer des shots? C'était au mois de juillet pendant la finale de la Coupe Stanley.
Ouais.
C'est la dernière fois. Parce que ces gars-là, là, ils savent que il y a probablement une reconstruction qui s'en vient. Fait qu'ils se disent, là, eux autres, c'est toute une audition pour eux autres. Là. C'est le moment ou jamais pour un dauphin, pour un Belzile de dire comme, hey, si vous échangez des gars, là, vous n'aurez pas le choix de me garder, mais pas juste parce que je vais être le seul, parce que je vais être le meilleur disponible pour vous autres. T'sais. Fait qu'il y a ce niveau d'implication-là, tu sais. Un Gallagher et un Petrie qui sait qu'il ne verra jamais le banc ou qu'il ne mangera jamais des hot dogs d'en haut. Là. T'sais, à part d'un, puis encore là, Petrie qui est day-to-day blessé, how convenient. Là. T'sais, c'est le seul qui n'est pas sur la liste de blessés. T'sais, moi, je trouve que ça sent le regard de mode benché. Mais tu vas sauver la face. Là. On va dire que tu as un ongle incarné.
Ouais.
Ça fait mal
de
l'ongle
incarné. Oui, c'est comme la première affaire qui m'est venue. J'ai fait
ça frotte dans le gant.
Dans un patin, ça doit faire mal en tabarnak.
Ah, moi, je pensais à la main. Tu sais que ça, tu frottes tes shots, puis l'ongle, t'en relèves tout le temps.
Ben, aussi, là, mais tu sais, moi, j'avais l'image dans le patin. Puis
ouais, moi aussi, dans le patin direct.
Ouais, c'est ça.
Mais clairement, tu sais, puis tu sais, c'est sûr et certain que pour des. Tu sais, c'est là que tu vois la dualité dans une équipe où tu as des vétérans qui ont une saison aussi atroce qu'actuellement, puis que ton spot est garanti. Vous ne voulez pas, tu es des Petrie, Gallagher, Anderson, Toffoli, c'est tous des gars que, peu importe que tu joues mal ou tu joues pas mal, ton spot dans le roster est garanti, parce qu'anyway, on n'a pas de personne pour te combler ton poste, vous ne voulez pas, parce qu'on manque de talent dans le corps du Canadien. Mais, tu sais, met des jeunes, comme tu dis, comme Dauphin, comme Pizzetta, même Payling, là, tu sais, je veux pas, c'est des gars que ils veulent avoir leur chance. Puis là, c'est, il n'y a pas de meilleur moment que là. Fait que, pour eux autres, ils ne jouent pas pour que le Canadien nécessairement gagne. Ils jouent pour s'acheter un poste puis peut-être acheter un contrat pour pouvoir faire partie du club dans les prochaines années. Fait que, tu sais, c'est important pour eux autres. Là, puis, comme tu dis, de bloquer des shots. Même hier, Romanov, sur le piqué, il a bloqué un tir de, je pense que c'était Palat ou je me souviens plus trop sur le coin. Là. Puis tu dis, crème, ce gars-là, il aurait pu se tasser. Au final, la saison est perdue. Mais non, toi, il se pitche devant le shot puis tu vois que ça a fait mal, mais c'est de même qu'il faut que tu te sacrifies pour consolider ton spot dans, pour la prochaine année. Là.
Ouais, clairement, les jeunes, c'est sûr qu'ils... C'est ça, ils s'achètent un contrat l'année prochaine ou du temps de glace l'année prochaine. Moi, on a parlé un petit peu dans notre chat privé, là, mais moi, ce que j'ai retenu de ce game-là, c'est vraiment le fait que Corey Perry a jasé avec Caulfield. J'ai trouvé ça vraiment, ouais, vraiment hot là, qu'ils ont passé. Ils disaient quasiment une demi-heure ensemble puis qu'ils ont jasé. Là. Je pense que c'est ça a fait beaucoup plus mal qu'on pouvait penser que Corey Perry soit parti de Montréal pour aider les jeunes.
Déjà que tu perdais chez Weber, techniquement, il savait là, à la fin des playoffs là, que tu perdes Weber, c'est déjà un gros morceau. On a parlé abondamment de son aura. Là. À la blague plus souvent qu'autrement, mais tu sais, ça reste que oui, il apportait une présence puis un leadership, mais de ce qu'on est capable de voir, c'est que Corey Perry était capable de faire ça. Puis Perry avait vraiment l'air d'avoir pris Suzuki puis Caulfield sous son aile, là, tu sais.
Mm-hmm. Donc, Duchamp, sa position n'est pas précaire.
Ça va dépendre du DG, puis ça dépend de...
En quoi dire par précaire?
donner du temps à Marc à l'auder. La première fois, c'est un petit peu plus long.
Never forget. Tu as encore le droit d'utiliser ses quotes, même si plus là.
Hey! C'est 80% du fun d'être sur le show.
Un des firms, man. C'est pas drôle là, ce que tu fais. Là.
C'est parce que là, si on fait pas ça, man, on ferme le podcast. Il n'y a plus rien à
voir. Il n'y a rien d'intéressant si c'est pas des quotes de Marc, voyons. Mais bon.
Si on faisait notre marketing du podcast avec lui.
Je le sais.
On a comme genre 4 jerseys qu'on est obligé de fermer parce que Marc n'est plus là.
Hein.
Mais bon, ce qu'on retient surtout du match contre le Lightning, c'est que la recette avec les jeunes qui compétitionnent, ça fonctionne dans la mesure où est-ce que tu étais au Centre Bell, tu regardais le match, c'est un match qui est intéressant. Puis ça fonctionne dans le sens que, malgré tout, t'as perdu. Fait que c'est parfait.
Ce qui m'a fait le plus mal, là, c'est la façon qu'on a compétitionné ou qu'on ne compétitionne pas. Puis je m'attends à une équipe qui va compétitionner toute l'année.
Moi, c'est ça.
Hier, ça compétitionnait.
Ah, ça compétitionnait beaucoup hier. C'est dur à conjuguer, hein, compétitionner.
Mais tu sais, pour vrai, là, tu sais, on a glissé un mot sur Romanov. Dont vous pouvez vous procurer des articles sur le merveilleux site de Mémorable Authentique. Plug. mais c'est ça. Mais tu sais, honnêtement, là, c'est beau ce qu'on voit de Romanov. Là. Il en a encore beaucoup à apprendre. Il est jeune. Mais s'il continue dans cette veine-là, puis à juste devenir meilleur, plus d'expérience, meilleure décision. Tu sais, ça vient avec l'expérience.
C'est drôle, hein, mais ça lui a fait du bien d'aller voir une game ou deux dans les estrades puis de se sortir de la marmite. Ça bouillonnait, puis là, tout le monde, des commentaires négatifs, puis là, ben, ça arrête pas, puis là, t'es comme dans une spirale que « Ah non, je fais une gaffe, là, je refais une gaffe, là, j'essaie de réparer, puis je refais une gaffe. » Relax, man. Prends,
ouais, puis il m'a l'air d'un kid qui carbure au défi, tu sais, comme on dirait que là, vu que Petrie n'est pas là, Edmondson, tu sais, qu'ils sont tous pas là, là, qu'on dirait qu'il prend ce rôle-là, puis il fait comme « All right, c'est beau, j'y vais. »
Ben, tu le vois un peu plus, tu sais, même, c'est ça, c'est peut-être au moment où il était dans les estrades que ça a fait le déclic, parce que, tu sais, au début de la saison, ça allait vraiment moyen encore, puis ça fait au moins un bon 10-15 matchs que tu vois qu'il est crawlique, Romanov a pris un step, tu sais, même au point où on se le faisait vendre solide, Romanov, là, avant qu'il arrive avec le club. C'est d'un playoff, il est à Toronto, puis on va y brûler une première année de contrat, ben pour qu'il apprenne la ligue, tu sais, si, ça. Puis on se disait que tabarnouche, ça va être le gros char, Romanov. Puis finalement, la première saison, ça a été correct, mais c'est une première saison difficile pour pas mal tous les nouveaux parce que
ouais, pas,
c'est une
saison COVID. On l'utilisait pas très bien.
On l'utilisait pas bien. Puis, tu sais, encore une fois, est-ce que je trouve sincèrement que Romanov a un peu fait ce que Suzuki a vécu? Tu sais, c'est de malgré, je dirais, une utilisation ordinaire, il a réussi à se développer par lui-même d'une certaine façon. Tu sais, comme Suzuki, il avait commencé ça à 4, puis crème, on le peaufinait pas, puis on le mettait en dessous du boss quand il faisait des erreurs. Puis, tu sais, tranquillement, même en dépit de ça, tu sais, il s'est développé, puis aujourd'hui, tu sais, ça va super bien ses affaires. Puis Romanov, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Puis, tu sais, actuellement, dans le line-up, là, Chariot, puis lui, c'est les deux, selon moi, c'est les deux défenseurs du club qui traîne le top 6.
Savard va mieux,
mais Savard est limité.
Ouais, ouais, ouais.
Tandis que Romanov, il fait ce que Savard fait, mais il fait encore mieux. Je trouve qu'il a pris un step, il a pris du galon. Comme tu dis, peut-être que le fait que là, on a une défensive avec tous des gars qui sont ordinaires, des Wineman. Kulak joue bien, mais ça reste un Kulak. Je pense que là, il s'est dit, bon, mais regarde, j'ai ma place, puis je me fais confiance. Puis on dirait qu'il est moins échevelé, il est moins perdu. Ben, je trouve que c'est intéressant parce que, comme tu dis, là, on le voit vraiment que ça va être un défenseur qui va pouvoir jouer des grosses minutes sur un top 4.
Mm-hmm. Oui, parce que justement, tu sais, c'est là qu'on voit, tu sais, on a parlé souvent, tu sais, de cette pression-là, des fois que je trouve qu'à Montréal, on a le tour de mettre aux jeunes que aussitôt qu'ils font une gaffe, paf, tu benches, puis tout. Tandis que là, Romanov est dans une situation que il n'est pas plus fou que nous autres, là. Il sait que no way qu'il va bencher. Parce que qui tu veux qu'il mette à la place de Romanov. Donc, il n'y a pas cette pression-là. Donc, il peut jouer comme il a toujours joué depuis qu'il y a 6 ans, de jouer avec son instinct. Tu sais, de vas-y avec ton instinct. Il n'est plus obligé de penser avant de faire un move de ah ouais, mais là, si ma passe se fait intercepter puis que je bench en deuxième, pas en troisième, ouais, OK, ben je vais essayer de faire autre chose. Tandis que là, il n'y a pas. Je sens qu'il n'y a pas cette pression-là, puis ça a vraiment l'air de se faire un bien énorme. Parce que
moi,
c'est
je
carrément
votre...
pas. Oui, go.
Vas-y, Francis.
Moi, je l'ai rencontré 2 fois, Alex.
Brag.
Puis,
c'est ça.
Puis, tu sais, il faut se mettre dans sa peau, c'est pas évident. C'est un Russe, il arrive ici. Le gars, il a 19-20 ans. Puis, c'est un gars qui est quand même assez gêné. Puis, je pense qu'il est... c'est une personne qui est extrêmement fière. Puis, tu sais, juste le deuxième signing qu'on a fait ensemble, quand on a fait signing, Alex, tu peux parler, gêne-toi pas. T'sais. Puis, sa peur, c'était justement de faire une erreur en anglais, puis qu'on rit de lui. T'sais. Puis, j'étais comme, Alex, bon, l'anglais, c'est même pas notre langue maternelle. T'sais. Fait que moi, je suis francophone, toi, t'es anglophone, t'es russe. On se parle dans une langue qu'on les deux, on maîtrise un peu, mais pas à 100%. Fait que je pense que probablement qu'il y a ce même réflexe-là peut-être sur la glace, de jouer peut-être, essayer de avoir peur d'avoir fait des erreurs ou blablabla, tu sais, puis honnêtement, je pense que dans sa personnalité, puis c'est quoi, il va juste prendre la maturité et prendre l'expérience, mais à 20 ans, là, écoute, un gars qui part de Russie, qui s'en vient d'un pays qui ne comprend même pas 100% de la langue, c'est vraiment pas évident, je pense que ça va prendre une bonne année ou deux, puis tu sais, les skills, il est ça, c'est un gros bonhomme, écoute, il est bâti comme un train, là. C'est un cheval, ce gars-là, et... c'est vrai qu'il est vraiment imposant comme personne. Puis, en tout cas, à date, moi, ce que je vois du Canadien, qu'est-ce qu'il nous donne sur la glace, je pense qu'à long terme, on a un bon petit défenseur.
Là, Francis,
en ce moment, il est top 10 dans la ligue pour les mises en échec. Parce qu'il est quand même
l'année passée, c'était lui qui était numéro 1 pour les recrues avec les mises en échec. Puis c'est incroyable parce que j'imagine qu'il est massif, il est gros naturellement, mais ça reste que sur la glace, c'est pas un défenseur, c'est pas un Savard, c'est pas un Weber. Mais physiquement, Asti qui en ramasse des gars, puis il est tellement solide sur ses patins que c'est une de ses forces là, de pouvoir synchroniser ses plaqués pour faire une mise en échec assez percutante, puis qui donne le ton aussi à son équipe. Là. Fait que je trouve que de ce côté-là, c'est excellent pour le Canadien, mais je trouve ça intéressant. Puis c'est vrai, là, quand tu y penses, même j'imagine un peu comme Caulfield quand il est rentré dans l'équipe, quand tu as des vétérans qui prennent de la place, puis on le mettait sur le power play. Mais toute la saison, au début de la saison, je le voyais qu'il était flanqué avec Petrie, mais Petrie s'entêtait à craquer sa bine au lieu de pouvoir circuler le puck, puis peut-être la passer à Caulfield, que lui aussi, il a une bonne shot. Fait que, t'sais, puis t'sais, j'imagine que quand tu es une recrue, tu veux pas dire à personne « Hey, j'étais là, tu pouvais peut-être me regarder, je pourrais te faire... » Fait que je pense que c'est vrai que ça peut peut-être être difficile, à moins d'avoir un très gros ego ou que tu rentres et que tu es une superstar puis que tout le monde, un peu comme des McDavid, Crosby, qui rentrent dans un line-up et le jeu tourne autour de toi. Je pense que c'est peut-être difficile aussi pour une recrue de faire sa place dans un... si je veux pas, c'est du mal alpha dans un vestiaire d'hockey. Fait que je suis d'accord que ça doit être difficile pour surtout quand tu viens en plus dans une langue étrangère. Là. Mm-hmm.
Changement de sujet un petit peu. TSN qui a sorti un palmarès, là, les 10 joueurs là, à surveiller pour des transactions potentielles. Le numéro 1, c'est Ben Chiarot. Comme on s'entend, en plus, il est UFA. Sylvain et moi, on en a déjà discuté dans notre show Vente de garage. Donc, Nick et Vandal, j'ai le goût de vous demander à vous deux, qu'est-ce que le Canadien peut ramasser pour un gars comme Chiarot qui semble être high target là, sur le marché.
Où est-ce que vous le gardez? Parce que vous pouvez décider de le garder aussi.
Non, non, tu ne gardes pas ça. Là. Je veux dire, dans la dernière année de contrat, tu es clairement en train de reconstruire. Ça serait idiot de garder Chiarot en ce moment. Clairement, tu peux avoir un... Ce qui est malade avec Chiarot en plus, c'est qu'il n'y a pas un gros contrat à la base. Fait que, plus tu vas loin, plus son impact, sa masse salariale est vraiment petit. Fait que... c'est encore plus intéressant pour les équipes qui vont être serrées sur le cap. Ouais, mais
c'est 3,5 pour un gars qui rentre dans ton top 4 facile.
C'est ça. C'est
même
vraiment
chez les aspirants de la coupe.
Fait que je pense que c'est clairement un late first qui va dans le deal. Puis c'est d'aller voir après c'est quoi, tu sais là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de disponible comme défenseur, soit en dernière année de contrat ou qu'il y a plusieurs années de contrat, mais de disponible sur le marché, ça va vraiment montrer la différence aussi. Là, mais c'est pas bête de dire que tu peux aller chercher un first puis un 3 prospect. Ou un petit prospect B ou quelque chose comme ça, ça peut être vraiment intéressant. Puis je pense que le Canadien ne peut pas laisser passer cette opportunité-là. On l'a tellement vu dans le passé quand ils ont laissé partir des... Mettons, je pense à Sheldon Surrey qui ont perdu pour absolument rien. C'est vraiment ridicule. Chiarot, tu ne peux pas leur signer l'année prochaine. Il va demander une augmentation de contrat avec les dernières saisons qu'il y a eu. Mm. Il va demander 4,5. Il va peut-être aller chercher 5 sur les UFA. Est-ce qu'il mérite ça? C'est une autre histoire, mais c'est ce qu'il est capable d'aller chercher. Le Canadien, un, n'a pas les moyens de payer ça sur sa masse salariale quand toutes les blessés reviennent. Donc, profite-en, si tu es capable de chercher un choix 28e overall pour avec un 92e ou un prospect B, ben profite-en puis vas-y. Là, dans ma tête à moi, il n'y a aucune question, c'est go. Tu t'échanges ça au deadline sans question.
Ben, surtout que tu sais, actuellement, mettons que le Canadien rentre dans une reconstruction, on a tous des contrats pratiquement. Pour les vétérans, là. C'est tous des contrats de 3 ans et plus. C'est ton seul contrat qui a de la valeur, que tu peux monnayer, puis qu'en plus, tu le sais que tu ne pourras pas leur signer, selon moi. La saison actuellement, c'est une catastrophe. Fait que c'est sûr et certain que ça ne sert à rien de le ramener, d'une certaine façon. Puis tu l'as signé. Fait que c'est buy low, sell high, ben, c'est ta meilleure occasion de pouvoir frapper un coup de circuit. T'sais, le draft est à Montréal en plus. Si tu vas chercher une sélection de première ronde, pour un club qui pense aller loin en série, ça peut finir quand même pour un pic de peut-être autour du 20e s'il sort en première ronde, comme ça peut finir que ça peut tourner autour du 30e s'il se rend loin, mais ça reste que c'est un bon bargain. Puis je pense même, parce qu'il y a des prototypes comme Chiarot qui a de l'expérience, il a fait une finale l'année passée en plus, il est physique, il est gros bonhomme, il est relativement quand même assez mobile pour son gabarit, qui a une bonne shot. Puis, je trouve que Chiarot, il garde sa game. T'sais, pour qu'il soit actuellement le défenseur numéro 1 puis qu'il fasse relativement bien, ça prouve que
il n'y a pas de fou là, en ce moment. Là.
Mais non, zéro open bar. Puis, je pense que c'est sûr qu'il jouait avec Weber puis c'était pas nécessairement une vraie première paire, mais il a quand même eu le rôle d'un défenseur de top 4, là, évidemment. Fait que je pense que tu peux pas miss une chance en or comme ça. Puis je serais convaincu qu'il y aurait probablement 5-6 clubs qui pourraient être dans le derby à date limite des transactions. Puis c'est sûr et certain qu'il y a une première ronde dans le deal. Puis ça reste à voir si tu es capable d'aller chercher au moins un prospect qui pourrait avoir un potentiel de jouer NHL. Là, c'est sûr que ça pourrait être plus qu'intéressant.
Moi, je suis sûr que tout ce que vous avez dit là était super intéressant. Mais... moi, j'ai blackout quand j'ai entendu Vandal dire serré sur le cap. ça, je sais pas, il y a eu une chaleur dans le bas ventre.
Ben, surtout que tu vois Francis sur sa caméra.
En plus, tu me parles de serrer sur le cap, puis là, je vois Francis, écoute.
Pas fait en bois.
Hey, c'est ça.
En plus, je l'ai dit, puis j'ai fait. C'est sûr que ça revient.
Je l'ai échappé.
Bon. Je l'ai senti, celle-là.
Sylvain, je vais te calmer les ardeurs un petit peu. Bob Gainey a été...
Ah ouais, tu vois ça, ça te dessert un cap, mon gars. Là.
Ça te lousse le
cap. Ça
te
disloque les deux épaules, certainement.
Clac! OK, Bob Gainey qui a été nommé sur le comité de consultation pour nommer le prochain directeur général du Canadien de Montréal. Vos impressions là-dessus, mes coquins? Sylvain, vas-y donc.
Sais-tu, puis ça, Vandal, il va me comprendre parfaitement. Là. Moi, quand j'ai vu ça, tu sais, il a longtemps été question dans le cinéma puis dans n'importe quoi de... Quand tu engageais quelqu'un d'une minorité, c'était le token black guy, puis le token ci. Puis tellement que dans South Park, il y a un petit bonhomme noir, puis il s'appelle Token. Fait que moi, quand j'ai vu ça pour Bob Gainey, la première affaire qui m'est venue, c'est comme ah!
Token Legend.
Token Legend. C'est en plein ça. T'sais, la dernière fois, c'était Serge Chavard, là, c'est Bob Gainey. C'est ça.
Mais pensez-vous que Bob, il va comme, après ça, aller dans les médias et dire « Hey, il me rappelait plus pour me demander mon avis. Pis... »
Non, ça, je penserais pas. Mais tu sais, puis avec tout le respect que je dois à Bob Gainey, sa dernière job dans NHL, ça date quand même d'il y a 7 ans. On sait pas à quel point il est resté proche du milieu encore, tu sais. Pour apprendre à connaître tous ces jeunes gars-là. C'est sûr que si c'est pour évaluer, par exemple, un Mathieu Darche, ben lui, il connaît personnellement parce qu'à l'époque où il était DG, Mathieu Darche était ici. Ça peut être un plus parce qu'il connaît en tant qu'homme en plus. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment vu ça comme juste comme, on va pitcher ça aux amateurs, ils vont être contents, ils vont nous sacrer patience. Tu sais, parce que soyons honnêtes, là, je trouve que c'est une mascarade qu'est-ce qui se passe en ce moment parce que Gorton, là, il serait le meilleur choix pour redresser cette équipe-là.
Mais c'est pas pour
rien qu'il
est
là. Mais il parle pas lui. Français. Mais c'est ça.
Lui. C'est ça. C'est un poteau qu'ils vont mettre. Là, c'est une pancarte.
Tu sais, ben, ça peut être bon, par exemple, pour... Puis encore là, je m'en allais dire, ça peut être bon comme pour un Mathieu Darche, mais il est déjà en train d'apprendre avec Julien Brisebois. Fait qu'il y a un assez bon training déjà, je pense.
Apprendre dans le meilleur club qui gagne des coupes avec le meilleur de sa profession versus...
Pour jouer sur le cap puis sur tout ça, là.
Ouais, pis...
Bon, jouer sur le cap. Là,
okay. Voilà, parler de moi. C'est bon, je savais. Juste quand je l'ai sorti, celle-là aussi, je savais. Là, bon, mais...
À côté ou pas sur le cap là.
Là en plus, Francis est en train de rire, style là, je m'en dis.
Bon. Mais tout ça pour dire que Mathieu Darche, pour jouer à la pancarte, apprendre oui d'un bon DG, d'un bon homme de hockey, ben est-ce que vraiment c'est à Montréal que tu veux faire ça sous les feux de la rampe en ayant en plus le titre de DG parce que demain matin on nomme un DG. Demain matin, toutes les critiques vont être sur le DG et non pas sur Gorton. Gorton a une situation de rêve. C'était dit dans le point de presse de Molson. La personne, ben en fait, les deux ils vont être responsables, mais la personne qui va avoir pas l'ascendant, mais sur qui comment je dirais ça, que les décisions vont s'appuyer sur. Quel bel anglicisme. C'est le DG, tu sais, qui va être...
une quote à marque, ça.
Oui, c'est une quote à marque.
Ah oui, hein, quand même.
T'appuyer sur.
T'appuyer sur. Mais moi, ce que je trouve cool, par exemple, mettons que tu mets Mathieu Darche qui a la job, tu te dis, tu sais, il a été sur l'équipe du Lightning qui était une grosse équipe gagnante. Là, mettons qu'il s'en va faire le rebuild à Montréal puis que ça fonctionne. C'est comme... ce gars-là est capable de faire la job, peu importe c'est quoi, là. Si le club est fort, il est capable d'être DG. Si le club est mauvais puis on veut le remonter, il est capable d'être DG. Il peut avoir beaucoup de cordes à son arc en prenant ce job-là puis en remontant le club du Canadien. Fait que ça peut être mais tristement intéressant pour lui.
Mais est-ce qu'il y aurait vraiment assez de crédit ou est-ce que tout le monde dirait « Ouais, c'est parce qu'il y a Gorton qui est là. » Tu sais, c'est vraiment un arme à double tranchant. Là. Je considère que, tu sais, c'est un... Le poste de DG en ce moment, là, je vois ça un peu comme un lose-lose. Tu peux pas gagner. Parce que si tu fais pas une bonne job, tu vas te faire planter. Si tu fais une bonne job, les gens vont dire « Ouais, ben c'est parce que Gorton est là. »
Ben, je pense que ça va faire un peu comme à Vegas. Tu sais, au début, comment il s'appelait le DG de Washington qui était allé là-bas?
McPhee.
Qui a fait
la...
McPhee, ouais.
McPhee, ouais, exactement. McPhee, oui. Qui s'est reculé de son poste, qui est devenu comme président des opérations. Puis c'est McCrimmon, je pense, le nouveau DG. Mais tu sais, tout le monde parle encore. Ben, c'est Murphy. Mais tu sais, dans le fond, il est président. C'est McCrimmon qui est le DG qui prend la décision. Au final, tu sais, je pense que ça va être un peu un... Tu sais, j'espère vraiment que les deux vont conjointement, tu sais, travailler ensemble, mais aussi que, tu sais...
Ils vont travailler ensemble conjointement, mais la personne qui va affronter la populace médiatique, c'est le DG.
C'est sûr, c'est le français. C'est
le français.
C'est pas pour rien,
fait que, veux pas, celui qui va devenir le visage de la franchise, ça va être le DG francophone. Celui qui va assumer les responsabilités des bonnes et des mauvaises décisions, ça va être le DG. Alors que dans les coulisses, en arrière-plan, ben, on peut s'attendre à ce que en réalité ça soit le président qui se ça soit Gorton qui vraiment tire les ficelles.
Ben peut-être qu'au début ça va peut-être être plus ça, le temps que, tu sais, surtout qu'ils disent qu'ils peuvent prendre quelqu'un qui n'est pas expérimenté comme rôle de DG, tu sais, c'est sûr et certain que la présence de Gorton va être prédominante là, c'est sûr et certain, surtout que c'est lui qui, tu sais, potentiellement qui va avoir un cercle. Ben, il va avoir son cercle de connexion. En plus, ils vont chercher, parce qu'il y avait quelques noms qui sortaient que c'était des agents de joueurs. T'sais, les agents de joueurs, oui, ils ont parlé avec des DG, mais ils n'ont pas tout le background des autres organisations. Je pense que ça va être important que Gorton soit présent derrière, mais c'est sûr et certain. T'sais, moi, je me dis, tu n'as jamais assez de bonne tête d'hockey en arrière d'une organisation, surtout que l'on l'a vu, c'était un one-man show avec Marc Bergevin, puis t'as un président en Jeff Mosetun qui n'est pas un président, qui est juste la cheerleader de son équipe, tu sais. Fait qu'au final, c'est sûr que ça ne pouvait pas marcher. Et Marc Bergevin, il n'y avait pas personne, puis tu sais, il y avait Mosetun dans sa poche pour les tu sais, pendant 9 ans, fait que veux pas, là, d'avoir quelqu'un qui, tu sais, Gorton veut vraiment avoir le rôle de président, même si c'est vice-président, parce que Mosetun ne veut pas enlever son titre, là. Mais je pense que le DG, ça pourrait faire un bon mix. J'ai juste hâte de voir le candidat. J'espère que ça va être quelqu'un qui va avoir une expertise autre que Gorton n'a pas. J'aimerais ça voir peut-être un gars qui spécialise du repêchage, qui prend sa place là ou quelque chose du genre. J'espère juste que ça va être un candidat qui va pouvoir bien fitter avec Gorton.
Gorton a déjà dit en point de presse qu'il cherchait quelqu'un qui avait un profil différent de lui. Fait que, évaluation de joueurs de hockey, repêchage, c'est des choses que Gorton a déjà faites dans le passé dans la Ligue nationale. C'est l'expertise qu'on lui reconnaît le plus. Donc, si je comprends bien, c'est qu'il va. La personne qu'on doit chercher doit faire le reste de la job. Exemple, gérer le cap, s'occuper des signatures de contrat, les waivers, tu sais, tous ces cossins-là de... Il y a un joueur qui s'est planté d'une camionnette coquée à Montréal en pleine nuit pour effacer les preuves, ça prend le DG qui s'en... Ça va être cette personne-là qui va faire ça. Fait que c'est pour ça qu'on entend beaucoup dans les médias parler de profils différents. Oui, il y a Mathieu Darche qui est le profil hockey le plus régulièrement mentionné. Mais sinon, il y a Kent Hughes et Émilie Castonguay qui sont des agents de joueurs qui, semblerait-il, sont vraiment bien positionnés pour avoir la job. Des agents de joueurs expérimentés dans le cas de Hughes, moins expérimentés dans le cas d'Émilie Castonguay. J'ai le goût de cheerer pour Émilie Castonguay pour vivre le fait qu'il y a une femme qui devient déjà à Montréal. Malheureusement, on va toujours, si c'est le cas, on va toujours avoir la question, c'est vraiment elle qui prend les décisions? Puis ça, je pense pas que c'est une bonne situation pour qui que ce soit, particulièrement une fille.
Ben forcément, une fille qui va dans un poste comme ça, t'as tout le temps 8 mononcles en arrière qui vont faire bien du bruit en disant ouais, tu sais, ouais, tu sais. Avec toutes les jokes de Asuseki, puis de, tu sais, toutes les jokes de mononcles de même, là. Mais j'ose espérer qu'en tant que société, on est rendu là. Puis, tu sais, la fille, quand même, là, tu sais, quand c'est elle qui est l'agente de Lafrenière. Ouais, c'est ça. Tu sais, Lafrenière, là, on va-tu s'entendre? Probablement que tous les agents de la LNH, ils ont donné un coup de fil. En incluant les Pat Brisson, les, tu sais, des gars vraiment férus. Mais lui, il a décidé d'y aller avec elle. Ses conseillers ont décidé d'y aller avec elle. Puis moi, je déteste pas l'idée d'avoir un agent de joueur là, justement, là. Parce que les agents de joueurs, forcément, ils ont des contacts avec toutes les équipes juniors. Ils ont des contacts avec tous les scouts possibles et imaginables. Ils savent qu'est-ce que ça prend développer un joueur, développer une superstar parce qu'ils en ont dans leurs écuries.
Même avec les DG, combien de fois qu'on entend des gars qui ont des clauses, puis là que c'est finalement l'agent qui tricote la possible transaction pour son joueur, contacte les DG, joue vraiment l'entremetteuse pour son client, puis que finalement, c'est comme ça que ça finit par aboutir. Il y en a là, des histoires comme ça. Fait.
Mais c'est surtout que, veux pas, c'est des personnes souvent qui ont un background juridique, là, que c'est souvent des avocats. Puis je pense qu'elle, Castonguay, elle a fait son droit. Fait que, veux pas, c'est pas des cabochons. T'sais. Julien Brisebois, il est avocat, si je me trompe pas aussi.
Ouais.
Fait que tu sais, c'est des gars, des personnes, ben, Émilie est une fille, là, mais des personnes qui sont très intelligentes d'une certaine façon, puis qui ont des expertises dans des trucs qu'aujourd'hui, le hockey, là, c'est plus juste des joueurs que tu mets dans un line-up avec des chandelles. Là. C'est rendu des chiffres, des contrats, des salaires, une masse salariale, des négociations. Tu sais, tout se joue avec comment tu peux t'organiser sur le cap salarial. Fait que veux pas. Ces personnes-là ont quand même des atouts. Moi, la seule chose que j'ai à dire pour Émilie Castonguay, ça pourrait être super le fun. Mon seule interrogation, c'est est-ce qu'elle a l'expérience que peut-être comme un Kent Hughes que lui a depuis 30 ans? Je pense pas. Fait qu'en termes de candidat, je me dis ça pourrait peut-être être plus intéressant. T'sais, je dis pas dans 10 ans, peut-être qu'elle pourrait avoir son rôle sans problème, mais je me dis actuellement, elle a quelques clients dont Lafrenière qui est son plus gros. Mais est-ce qu'elle a l'expérience que d'autres agents ont? Je ne sais pas.
Un peu ce que Gorton a dit, par exemple, qu'il était ouvert à avoir un candidat qui n'avait pas cette expérience-là. Parce que justement, avec lui qui est là pour l'épauler, en tout cas, moi, je pense que ce serait vraiment parfait.
Ouais, moi, ça me fait pas penser, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le film 42 là, sur la vie de Jackie Robinson. Ça me fait penser un peu à ça quand tu dis « Ah, mais tu sais, ce serait la première fille, il y aurait beaucoup de pression. » Puis tu sais, là, dans le film, il dit, je veux être le premier noir dans la ligue, puis je vais me battre. Puis il était comme, non, faut pas que tu te battes, faut que tu prennes tout. Puis tu dis, c'est pas un tabarnak de mots. C'est un peu ça, je pense. Là, oui, il va y avoir des, comme tu disais, des mononcles, des caves qui diraient, ouais, mais c'est ça, à su c'est qui pour avoir ce poste-là.
Ouais.
Mais ça en prend une, ça en prend la première qui va avoir un poste important, puis qui va faire une bonne job. Puis dans n'importe quel job, je pense que. Autant c'est des jobs super féminines, avoir un gars là, c'est super important parce que les gars et les femmes, on pense pas pareil. Autant que dans le monde du hockey, ça serait bon d'avoir une tête féminine qui penserait autrement, qui penserait peut-être un peu plus aux joueurs que justement juste penser au côté cap salarial, masse. Tu sais, là, si tu penses un peu plus le côté humain,
peut-être que
ça aiderait aussi là, à garder avoir un sentiment d'appartenance dans ton club, peut-être te dire. Ah, ben, je vais en prendre 1 million de moins sur mon contrat parce que je suis bien ici, puis ça va nous permettre de signer le scoreur de 30 buts qu'on n'a pas. C'est peut-être tout ce côté-là qui pourrait venir avec le Canadien en ayant une femme dans le club. Ça pourrait être intéressant, fait que ça.
Mais pourquoi ne pas, mettons, la prendre comme assistant GM, puis tu sais, de mettre peut-être quelqu'un d'autre? Parce que, est-ce qu'on est rendu là? Dans ma tête à moi, oui.
Parce que là, ça commence à faire beaucoup de monde là, dans la hiérarchie. Ouais. Là.
T'as déjà un GM. T'as déjà un vice-président GM.
Ouais, mais il va en avoir un assistant. Là. C'était Trevor qui était l'assistant. il va en avoir, un éventuellement pour s'occuper du club école puis du développement des jeunes et tout. Là, je trouve que ça pourrait être intéressant qu'elle soit là autour du club puis toutes les raisons sont bonnes actuellement. C'est parfait. Mais j'ai l'impression que c'est plate, là, mais qu'elle, une fille, soit là. Je trouve que je pense que la critique va être facile quand, mettons, que le club va pas bien. Puis ça va être comme, tu sais, les critiques vont être faciles de dire, hey, c'est une fille qui gère le club, nanana, tu sais. Je pense que qu'elle soit autour du club comme assistante, je trouverais ça parfait parce que tu bénéficies de tous ses atouts. Puis le temps que je vais dire, le public montréalais, les fans s'acclimatent à être autour de l'équipe, ben, tu sais, si jamais il y a un changement qui s'opère, ben, tu sais, elle va déjà avoir fait ses preuves dans le club. Fait que c'est plus facile
mais
de.
Anyway, un DG au Québec va être critiqué. Peu importe, là. Tu sais, femme, homme, grenouille, némite, là. Tout le monde va être critiqué. Moi, c'est juste que c'est pour l'individu. Là. C'est pas pour les compétences. C'est pas. C'est. Si jamais ça fonctionne, elle pourra. Les gens auront toujours l'argument de dire c'est Gorton. Était la façade à Gorton. Puis si ça fonctionne pas, ben, ils vont quand même la critiquer, elle. Malheureusement, elle a comme pas de façon de gagner. Puis Vandal, je pense que la quote que t'as parlé tantôt, c'est la meilleure façon de le prendre. Malheureusement pour l'individu, là, pour la personne. Mais va falloir qu'il y ait un jour une fille, ça sera peut-être elle, qui va manger claque, qui va manger coup, mais qu'après ça, ce plafond de verre-là va être brisé, puis il y aura de la place pour toutes les autres femmes sans qu'il y ait de débat à savoir si c'est vraiment elle, si c'est grâce à elle, si c'est pas grâce à elle, si c'est un lien avec la marionnette. Mais je trouve ça plate pour la femme qu'on puisse être devant cette situation-là.
On s'entend, c'est le AGM du Canadien, c'est de la merde. Tu regardes tous les anciens DG du Canadien, ça a tout mal fini, tout le monde les haït. Bergevin, à cette heure, s'est rendu une grosse merde. Gauthier, c'est une merde. Guéné, c'est une merde. Savard, c'est une merde. Réjean Houle, c'est une merde. Il faut que tu recules jusqu'à Serge Savard. Hey, tu commences à reculer loin là, avant d'avoir un DG que le monde respecte encore. Là. Toutes les autres, c'est tout comme genre, hey, on les haïssait-tu? Hein? Il était-tu mauvais comme DG? Ben, je m'excuse, mais Guéné, il a fait des gaffes, mais il a fait des bons coups. Gauthier, ben, moi, je ne l'aimais vraiment pas, Gauthier, là, mais il a fait des bons coups pareils. Bergevin, il a fait.
Ben oui, Ben, s'arrêter d'autre que tu dis. Gauthier, c'est une merde, finalement. Ouais,
Gauthier, c'est une merde. Tant qu'à moi, juste son attitude, là, lui, il mérite de se faire dire que c'était une merde. Mais tu sais, Bergevin, il a fait des méchants bons moves. Il a amené son équipe à une finale de la Coupe Stanley. Puis là, à cette heure, c'est comme si c'était le pire gars de l'histoire de l'humanité. T'sais. Je veux dire, c'est vraiment pas une job évident, mais évidente, mais. Ça serait cool de voir une femme là, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce que c'est tout ça?
Ah,
ça
moi, je veux
une femme
le vivre.
Vraiment forte.
Moi, j'espère juste qu'on va prendre le meilleur candidat possible.
Absolument.
Avec les atouts, que ce soit une fille, un gars, peu importe, je m'en fous. Je veux juste qu'on aille le meilleur candidat possible, puis que cette personne-là, elle aille un plan, puis que ce plan-là qu'il soit bien exécuté, puis qu'on voit des résultats. Tu sais, ça soit une reconstruction complète, une reconstruction partielle, je m'en fous, mais je veux juste que au moins on s'enligne dans une direction puis qu'on fasse pas des crescendo d'un bord puis de l'autre comme malheureusement Bergevin a fait durant son parcours. Tu sais, il n'a jamais été à fond au moment où il devait être à fond. Il n'a jamais été, il n'a jamais liquidé son stock comme quand il a fait son reset. Ben moi, tant qu'à moi, le reset, au final, il n'a pas payé parce qu'on est rendu à cet état. Tu sais, trois ans plus tard, on est rendu là puis ça n'a pas marché. Fait tu sais, je veux juste que la structure soit bien établie d'emblée puis qu'on suive un plan qui soit fonctionnel puis que le Canadien, tu sais, moi, j'espère juste qu'il retrouve un peu son lustre puis qu'on soit, tu sais, qu'on aille au moins un club qui soit compétitif pour au moins plus que, tu sais, 3, 4, 5 saisons. Tu sais, je t'année, moi, des saisons où que tu fais série, tu les fais plus. Tu fais série, tu passes proche de faire série.
Ah, ça fait 30 ans, ça. C'est
ça, exactement. Fait que, tu sais, on peut-tu avoir un club qui, pendant une décennie au moins, serait, qui fasse 2-3 rondes de série, tu sais?
Mais Nick, je suis pas mal tout d'accord avec ce que tu as dit, sauf le point de le candidat le plus compétent. En partant, les dés sont pipés, faut que les candidats parlent français. T'auras pas le candidat le plus compétent pour la job. Fait que tant qu'à ça, pourquoi tu pousses pas une coche de plus puis que tu y vas all-in de dire « Anyway, c'est Gorton » ou whatever, là, tu sais. Mais cette fois-ci, ça va être une femme. On fait ce pas-là. Puis il y en a des candidates, là, on parlait d'Emilie Castonguay, mais aussi Catherine Reich, qui est avec les Eagles d'Atlanta. Tu sais, il y en a, là, dans la NFL. Hein?
Philadelphie,
excuse-moi. Ouais, j'ai
t'es comme, qu'est-ce que c'est ça, ce club-là, Eagles de l'Atlanta?
C'est les Faucons d'Atlanta.
Ah bon, tu vois. Okay.
C'est trompé de moineau.
Mais oui, non, je sais. Fait que, c'est dans le bon sport, par exemple.
Ah oui? Le cricket.
Eh oui.
Le boulingrin.
Ouais. Mais tout ça pour dire qu'il y en a des filles compétentes, puis je pense pas que la job qu'on vise à donner là, grâce à Gorton, qui va occuper une grosse portion des trucs hockey related, que Catherine Reich serait pas capable de le faire. T'sais, tant qu'à ça, vas-y. Tant qu'à déjà mettre des barèmes qui font que tu n'auras pas le candidat le plus compétent, vas-y. T'sais, rajoute l'équation que faut que ça soit une femme. Moi, je suis prêt à faire ça, ce deal-là, pour cette fois-là.
Ben, moi, j'aimerais ça à ce niveau-là, là, que ça soit une femme noire anglophone.
Ouais,
juste pour fucker tout le monde.
Moi, je suis pas d'accord avec vous autres. Depuis tantôt qu'on parle de ça, là, vous parlez de sexe. Moi, je voudrais quelqu'un de non-binaire.
Un ou une yel.
Ouais,
une yel.
Hier, lors du match contre le Lightning de Tampa Bay, on en a jasé entre nous autres. J'ai même fait une bannière qui n'est d'ailleurs plus à jour déjà avec la blessure de Dvorak parce que ça ne fait qu'augmenter. J'ai sorti des chiffres, OK? Masse réelle du Canadien, donc l'argent qui sera dépensé cette année par le Canadien de Montréal, on parle de 92,9 millions de dollars. C'est le club qui va payer le plus cher pour opérer cette année et c'est la deuxième pire fiche de la Ligue. Juste ça, ça explique pourquoi Bergevin n'est plus là. Les joueurs qui sont sur la liste des blessés à long terme slash rachat. Price, Weber, Barron, Osner. Osner, c'est le rachat, bien entendu. On parle de 23,75 millions de dollars. Les blessés. Gallagher, Petrie, Anderson, Toffoli, Edmondson et Dvorak. On parle de 34,56 millions de dollars. Ce qui veut dire que les blessés, les gens qui ne sont pas là, c'est 58,34 millions de dollars qui sont absents. La masse réelle de l'alignement en ce moment, c'est 34,5 millions de dollars. Et donc, le Canadien est sous le cap du plafond salarial, là, de la masse.
Le plancher.
Le plancher est en dessous du plancher.
Ouais, arrêtez de dire cap, dites plancher.
Et sous le plancher.
Non, j'en moins.
Et sous le plancher de 25,4 millions de dollars.
Hey, juste pour vous dire à quel point c'est dramatique, là. Actuellement, à matin, la pratique, là, le premier trio, c'était Hoffman, Suzuki, Drouin. Deuxième trio, Lekkonen, Paling, Evans. Troisième trio, Perrault, Dauphin, Caulfield. Puis quatrième trio, Pezzetta, Paquette, Ilonen. En top et moi, ça sonne pas mal plus Rocket. Ah ouais. Que le Canadien.
À part ton
là,
premier trio, que t'as un solide trio NHL.
Oui, oui, mais tu sais, le reste. Là, le reste Paling qui était AHL au début de la saison, qui est sur ton deuxième trio. Ouais. Ça t'en dit long, là.
Mais c'est ton deuxième centre qui a marqué le plus de buts dans l'équipe, par exemple.
Ouais, en
pas beaucoup de matchs. Parce que Suzuki a marqué hier, parce que sinon, je pense que c'était à égalité. Tu sais, il fait une solide job depuis qu'il est revenu, le Paling. On a fait bien des jokes de Fortnite et tout, là, mm-hmm. Mais il faut rendre à César qu'est-ce qui lui revient. Il fait une solide job depuis qu'il est revenu. Là.
Mais c'est surtout que, tu sais, il faut que les attentes soient aussi réalistes avec le produit qu'on a. Tu sais, c'est sûr qu'est-ce qui n'a pas aidé, c'est son match de 3 buts. Il est sorti du championnat junior, qui était le joueur le plus utile offensif. Mais tu sais, au final, Paling va être potentiellement un centre troisième trio. Qui va avoir, tu sais, moi je le vois un peu comme un harceleur, tu sais, qui va avoir un 30-40 points peut-être dans son pic de carrière, mais il a son utilité, là, tu le vois qu'il drive le net, tu le vois qu'il y a de l'intelligence hockey, qui est capable de rentrer en zone offensive, de prendre son temps, analyser, ok, mes gars sont où, je fais une passe à un défenseur pour ouvrir le jeu, tu sais, tu le vois qu'il a pogné un step, puis que là, au moins, il se bouge le cul versus, tu sais, sa nonchalance qu'on trouvait dans les dernières années, là.
Ah oui, ça, totalement. Écoute, c'est le jour et la nuit avec la dernière fois qu'on l'a vu, justement. Puis tu sais, moi, j'ai toujours dit que dans le meilleur de son développement, Ryan Poehling serait un bon troisième centre. Mais à jouer comme il joue en ce moment, là, je vais te dire, un coup mal pris, c'est pas gênant comme deuxième centre. Mm-hmm. Si t'as un bon premier centre en avant de lui, là, c'est pas gênant comme deuxième centre.
Puis actuellement, tu sais, j'ai comparé les statistiques que Philippe Dano avait à pareil âge. Puis Philippe Dano il arrivait avec le Canadien, je pense, comme l'année prochaine dans son parcours NHL. Fait au final, puis jouait dans le fond Ligue américaine aussi avec Chicago à pareille date à l'âge de Poehling. Fait que, tu sais, au final, le développement de Poehling pourrait s'apparenter peut-être à un Philippe Dano, je veux pas, là, parce que les points que Poehling a fait dans la Ligue américaine est supérieur à ce que Dano avait. Fait que, tu sais, il a quand même encore, tu sais, il est encore jeune, puis c'est un gars qui a une intelligence hockey, mais qui joue aussi de la bonne façon des deux sens de la patinoire. Puis ces gars-là, des fois, peuvent peut-être prendre un peu plus de temps parce qu'on n'a pas les flashs offensifs qui leur permettent d'avoir du temps de jeu. Fait que c'est sûr que si tu fais t'sais, un Lekkonen, tu le vois pas vraiment souvent sur la glace, mais il est là. Il fait sa job puis il fait pas d'erreur. Fait que s'il continue à jouer de même, comme tu dis, il va peut-être pouvoir s'acheter des grosses minutes.
Hey, si jamais il y avait un minimum de finish, Lekkonen serait brut.
Hey, c'est pas.
Il est tout le temps là. Il a tout ce que tu veux d'un joueur, sauf cette petite bout-là. Il est pas capable d'acheter un crise de but.
Lekkonen. Tu sais, moi, je regarde ce que Lekkonen dit, puis je me rappelle que mon père disait toujours, quand il parlait de Réjean Houle, il disait « Asti, Pinotte, il a toutes les chances de scorer qu'il veut, mais il trouve tout le temps le moyen de te la crisser sur le poteau, c'est un filet désert. » Et tu sais, puis je vois Lekkonen, puis je fais quand même « OK, fait, c'est comme ça que Réjean Houle joue. » Ah, je comprends ce que mon père disait.
Faut juste que Lekkonen apprenne le français, puis il va devenir un jour... Le DG.
Il fait des bonnes annonces de la bonne bière.
OK, je pense qu'on a fait le tour du Canadien de Montréal, de ce qu'il y avait à
yes!
dire.
On a fait le tour du cap.
On a fait le tour.
On s'en va-tu en après-show avec les riches?
Oui, on peut aller en après-show. On fera le tour de la NHL avec les riches dans l'après-show.
Ouais.
On va parler de ce qui se passe du côté de Vancouver. Marc-André Fleury, sa 500e victoire potentiellement contre le Canadien mercredi. Donc, on va aller jaser.
L'explosion à Philadelphie.
Ouais, around the NHL, on fera ça dans l'après-show vu que, anyway, on n'a pas de fun fact d'Eduardo vu qu'il n'est pas là.
Hey, j'ai pris la relève, j'ai pris une coupe.
Ah ouais, bon.
Ben, voyons donc, toi.
Des fun facts dans l'après-show de signer Jean-Philippe Vandal. OK, pas des tout nus. JB Gagné, qui était...
Encore bandé.
Bon. qui était ton animateur, encore une fois. Aujourd'hui, Sylvain Rioux, Nicolas Desrosiers, Jean-Philippe Vandal, un gros merci. Les gardements d'avoir été sur cet épisode.
Toujours un plaisir.
On salue nos patrons qui sont venus faire un tour sur l'épisode. On parle bien sûr de Francis Benoît de Mémorable Authentique et Jean-Philippe Vandal, qui est un patron en plus, mais qui a aussi déjoué les règles de sécurité et qui a permis de rentrer les gens sur le Zoom. C'est qui est avec nous là? Je ne connais pas. Fait que...
Alex Fortier qui est avec nous bon. Ce soir.
Tu vas devenir un patron.
Oui, monsieur.
Hein? Salut, Alex.
Il faut. Nos patrons, je vais les nommer. Patreon.com/LAPOC pour pouvoir avoir accès à l'après-show et aussi être parmi les gens qui auront une chance de remporter une POC signée par Nathan McKinnon. Tap! Je ne crois pas encore. Ça fait comme deux semaines qu'on le sait depuis qu'on a reçu Francis sur le show. Hein? Ça fait deux semaines puis je ne crois pas encore qu'on va avoir on a ça comme prix à faire gagner. Tirage le 2 janvier, il faut être patron. En date du 1er janvier 2022, patreon.com/lapoc.
Est-ce que je te dis de quoi, moi?
Vas-y.
Si on tombe à 50 Patreons,
tabarnak!
J'ajoute.
Oh.
J'ajoute un mini casse signé par Cole Caulfield.
Wow! Oh. Mais là, 50, tu sais qu'on est à 20, là.
Ben, Chris, je rajoute quand même un casque signé de Cole Caulfield, là, c'est pas rien.
Un mini casque. Mais c'est-tu parce qu'il a confié une mini-tête ou...
Ah, c'est un Game Use?
Ouais, c'est un Game Use. J'ai pas dit sur quelle tête il avait mis le casque.
Ah!
C'était peut-être sur une grosse tête mauve. Oh là! Ben, oui, bandé encore.
Ouais.
OK, nos patrons, Danny Hogan Tousignan, Philippe Lemieux, Martin Côté, Francis Benoît de Mémorable Authentique, bien entendu, Marc-André Fredette, Yves Brouillette, François Grenier, Pierre-Luc Albert, Mark Griffith, Christopher Hills, Adrien Lambert, Frank Lajeunesse, Alexis Dehout-Tremblay, Pierre-Yves Giacometti, les boys de Dans le Slot, à écouter leur podcast sur la NHL avec la vision européenne de France. David Fontaine-Rondeau, Génital, Jean-Philippe Vandal, bien sûr, Jerry Godbout, Pierre-Luc Bouchard, Renaud Lavoie, Samuel Savard, Nicolas Schmid, Jérémy Rivard du podcast sur la Terre des Hommes.
Hey, donc, j'ai écouté ça, le podcast sur la Terre des Hommes à Montréal, Ottawa, en fin de semaine.
C'est mauvais
en
tabarnak.
Hein. Non, c'est vraiment bon, sérieusement. ça vaut la peine d'écouter ça.
Ouais, allez découvrir ça. Le podcast sur la Terre des Hommes qui est disponible partout. Écoutez, où est-ce que la POC est disponible. Fait que...
Un bon podcast sur un gars qui est allé en Corée du Nord, là, c'était vraiment cool d'entendre ça. Ouais.
Non, ils font vraiment des bonnes affaires, son staff. Voilà qui fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui de la POC. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là, les riches. On se retrouve de l'autre côté dans les pré-shows. Bye bye!